cours de chimie proposé par physiagrec.fr. Chapitre 1, transformation lente et rapide. Mettons en évidence expérimentalement les différents types de transformations. Pour les transformations rapides, on peut faire une expérience de précipitation, ou plusieurs. Par exemple, dans un tube à essai, si on met du nitrate d'argent avec quelques gouttes de solution d'acide chlorhydrique, on verra l'apparition d'un précipité blanc de chlorure d'argent. Également, on peut faire la précipitation de l'hydroxyde de cuivre en faisant réagir du sulfate de cuivre avec quelques gouttes d'hydroxyde de sodium. Définissons ce qu'est une transformation rapide. Une transformation est dite rapide lorsqu'elle se fait dans une durée trop courte pour que nous puissions suivre l'évolution à l'œil nu. Des exemples de réactions rapides, les réactions explosives, les réactions de précipitation et les réactions acido-basiques. En ce qui concerne les transformations lentes, expérimentalement, on peut mettre en présence les ions iodure avec l'eau oxygénée. Donc on va utiliser une solution d'iodure de potassium. On va mettre de l'eau oxygénée en contact avec cette solution et on va voir l'apparition de diode qui est une couleur caractéristique brune. Définition, une transformation est dite lente lorsque on peut suivre son évolution à l'œil nu. On pourra également suivre ces transformations à l'aide d'instruments de mesure comme les spectrophotomètres, les conductimètres ou alors un capteur de pression. Un exemple de transformation lente, généralement les réactions d'oxydoréduction sont lentes. Il existe aussi des transformations qualifiées d'infiniment lentes, donc on ne peut apprécier à l'œil nu l'évolution du système. Par exemple, les transformations à l'origine du vieillissement du vin sont qualifiées d'infiniment lentes. Alors justement, on va parler de réactions d'oxydoréduction en faisant des rappels sur ces réactions. D'abord, ce qu'est un oxydant. Donc on dit que l'eau oxygénée, H2O2, est un oxydant car c'est une espèce susceptible de gagner des électrons selon l'équation H2O2 plus 2H plus 2 électrons donne 2H2O. On va obtenir alors un réducteur, H2O étant un réducteur. Qu'est-ce qu'un réducteur? Donc par exemple, sur la même réaction, on va prendre l'ion iodure, I- qui est un réducteur car c'est une espèce chimique susceptible de perdre des électrons selon l'équation 2I- égale I2 plus 2 électrons. On va obtenir donc I2 qui est, lui, un oxydant. Couple oxydant-réducteur et réaction d'oxydoréduction. Couple oxydant-inducteur ou oxydoréducteur, c'est l'ensemble d'un oxydant et d'un réducteur conjugués. Ils forment donc un couple qui est noté ox/red. Par exemple, le couple H2O2-H2O ou alors le couple I2-I-. Le passage de l'oxydant au réducteur conjugué ou inversement est formalisé par une demi-équation électronique. Ox plus n électrons donne red. Qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction? Une réaction d'oxydoréduction met en jeu un transfert d'électrons entre l'oxydant d'un couple oxydoréducteur et le réducteur d'un autre couple oxydoréducteur. En ce qui concerne la réaction entre l'eau oxygénée et les ions iodures, l'eau oxygénée va réagir avec deux ions iodures plus 2H+, et cela va donner I2 plus 2H2O. Donc les ions iodures ont cédé 2 électrons, et ceux-ci ont été gagnés par la molécule d'eau oxygénée. Méthode d'écriture des réactions d'oxydoréduction. Tout d'abord, les demi-équations électroniques. Donc pour les équilibrer correctement, on va d'abord écrire Ox plus électron donne Ren. On va équilibrer tous les autres atomes que O et H. On va alors équilibrer les O en ajoutant des molécules d'eau dont on a besoin. En effet, on est en solution aqueuse. Et enfin, on va équilibrer les H en ajoutant des protons H+, quand il y en a besoin. Dernièrement, on complète le nombre d'électrons pour respecter la conservation des charges électriques. Pour ce qui concerne les réactions d'oxydoréduction, on va d'abord écrire les deux demi-équations électroniques en mettant à gauche les deux réactifs, donc un réducteur et un oxydant. On va alors s'arranger pour avoir le même nombre d'électrons transférés entre les deux équations. Donc pour cela, on peut multiplier les deux équations par des nombres entiers. Une fois qu'on aura fait cela, on va pouvoir additionner membre à membre les deux demi-équations électroniques et cela nous donnera l'équation d'oxydoréduction. Voyons maintenant l'influence de paramètres sur la vitesse de réaction. Donc ces paramètres s'appellent les facteurs cinétiques. Alors définition, nous allons voir dans ce paragraphe les grandeurs qui peuvent influer sur la durée, donc la vitesse d'une transformation chimique. On les appelle les facteurs cinétiques. Le premier facteur est la température. On peut faire facilement une expérience, donc où on va préparer une solution dans un bécher, avec par exemple 20 ml de liquide de filling et une spatule de glucose en poudre. On met ces trois béchers à trois températures différentes et on observe l'évolution du mélange réactionnel. Bien entendu, on va voir que l'évolution du système est la plus rapide quand la température est la plus grande. Des applications de l'influence de ce facteur cinétique qui est la température. ben on peut comprendre pourquoi on fait cuire nos aliments dans une cocotte minute. En effet, si on met une pression importante dans la cocotte, cela va nous permettre de porter l'eau à une température très importante et on va cuire les aliments plus rapidement. Ça permet aussi de comprendre que si on met les aliments au frais, on va arrêter ou en tout cas diminuer la vitesse des réactions de dégradation des aliments. Donc on va les conserver. Le deuxième facteur cinétique, c'est la concentration initiale des réactifs. Comme expérience, on va reprendre notre réaction entre l'oxygène et les ions iodures. On va préparer trois béchers avec le même volume d'oxygéné, puis des volumes identiques de solution d'ions iodures, mais à différentes concentrations. Au fur et à mesure de l'expérience, on va voir la coloration de la solution s'intensifier puisque la réaction crée du I2. Le fait important, c'est que dans le bécher où la concentration des ions iodures était la plus importante, la coloration va apparaître plus rapidement que dans les autres béchers. À la fin de l'expérience, par contre, les trois béchers auront la même coloration, mais dans le bécher où les ions iodures étaient très concentrés, la coloration maximum a été atteinte plus rapidement que dans les deux autres. Donc on peut conclure sur ces deux facteurs cinétiques. Plus la température est élevée, plus l'évolution du système se fait rapidement. Plus la concentration initiale des réactifs est élevée, plus l'évolution du système se fait rapidement. La température et la concentration initiale des réactifs ne sont pas les seuls facteurs cinétiques. Il existe aussi la présence de catalyseurs, la lumière et le solvant dans lequel est effectuée la réaction, par exemple, qui vont jouer sur la vitesse de la réaction.